Marie-Louise Sibassouri. Vivre, c'est compter.
Au moment de la guerre, j'avais déjà écrit 76 pièces de théâtre et dont j'ai perdu au moins plus de 60. Et ces textes ont disparu avec la maison qui a été détruite. C'est quelque chose que je ne pourrais pas rattraper. Disons mes mini-pièces que j'ai écrites quand j'avais 16 ans. Si j'essayais de la refaire aujourd'hui, je n'y arriverais pas. J'ai plus 16 ans. Je me dis, quelque part, j'essaie de compenser ce qui a été perdu en produisant plus. Ou alors que c'est un défi de me dire ce qui a été perdu, mais mon cerveau n'a pas été perdu avec. Et je peux me produire de loin plus que ce que j'avais produit avant. Alors je me dis que je suis peut-être dans cette logique maintenant de faire plus et si possible mieux que ce que j'avais fait avant la guerre. Un peu comme un défi lancé à la guerre, histoire de lui dire, oui, tu as démoli ce que tu as démoli, mais tu n'as pas démoli l'essentiel qui est ma vie. Et avec ça, je peux reconstruire mieux que ce que j'avais construit avant.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Marie-Louise Sibassouri, une artiste dramaturge burundaise. Le Burundi accède avec violence à l'indépendance en 1962. Cette indépendance augure une histoire complexe et douloureuse, car à partir de là, l'histoire du Burundi est ponctuée de violence, des coups d'État, des assassinats de dirigeants, des insurrections, des massacres. Cette histoire chargée va susciter toujours plus de tensions au sein de ce petit pays, entre un État fragilisé et une société civile déchirée. Marie-Louise naît dans ce contexte politique instable. Elle poursuit néanmoins une scolarité complète et devient alors enseignante. Parallèlement, elle monte une troupe de théâtre et commence à tourner sur les collines burundaises. Et puis en 1993, la guerre éclate au Burundi.
Depuis l'indépendance, le Burundi n'a vraiment jamais vécu en paix. Il y avait chaque fois des sortes de guerres larvées. Ce qui a fait que ce cycle de crise a toujours été et est là et qu'elle pourrait continuer si la situation restait la même, c'est le problème de l'impunité. Parce qu'à partir du moment où une situation de violation des droits humains est une situation généralisée, les victimes se disent « Ok, les autres nous ont fait ça et ils n'ont pas été punis. » Alors nous allons nous rendre injustice, nous allons leur faire la même chose et peut-être leur faire pire. Et comme ça, on ne sera pas puni non plus puisque les autres aussi n'ont pas été punis. Alors on est dans le nous aussi à l'infini. On voit au Burundi souvent que c'est les enfants des victimes qui après deviennent les bourreaux. Ça je trouve que franchement, pour pouvoir casser le cycle des violences au Burundi, il faudrait que les questions des violences cycliques soient mises sur table. Et qu'on établisse les responsabilités. Parce qu'on ne peut pas rendre justice aux humains sans que la parole ait eu lieu. La justice, c'est déjà la parole. Quand je dis une parole qui guérit, ça ne veut pas dire une parole qui ne condamne pas, qui ne punit pas. Mais une parole vraie. Mon souvenir le plus terrible, c'est quand on a été attaqué pendant la guerre, que moi j'ai pu passer par-dessus le mur et retomber derrière et que j'ai entendu les militaires tirer sur les miens. Donc le fait de me dire qu'ils sont en train de mourir et sans moi, il n'y a pas de mots. Au début j'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai sauté par-dessus le mur, que j'ai couru. Et puis après quand ça a commencé à tirer, je me suis sentie lâche. Je me suis dit, je suis une adulte. Et j'ai déjà vécu 33 ans et j'ai quand même connu pas mal de joie de l'existence. Et je me terre derrière un mur pendant que mes enfants sont en train de mourir de l'autre côté. J'ai dit, quelle mère je suis. Alors je me suis dit, mais mon mari est mort, mes enfants sont morts. Et moi, comme une idiote, je me cache. J'ai dit, mais je me cache, mais pourquoi? Le plus intelligent, c'est d'aller et de mourir avec les autres. Alors j'ai essayé évidemment de grimper. Et comme je ne suis pas très agile, j'ai essayé de grimper, mais j'ai glissé et je suis retombée, je me suis foulée la cheville. J'étais dans un tel état de désarroi intérieur et de colère mêlée et en même temps de culpabilité de me dire qu'il n'y a aucune raison que je reste quand les autres sont morts. Et je me disais, mais t'es pas bête de rester terrée comme ça. Tu protèges quoi en somme? Et je crois que j'étais vraiment dans l'énergie d'aller vers la mort. J'étais là un peu vide dans la mesure où j'étais tellement vide que je comptais les coups. 2, 5, 7. Et je savais combien d'adultes il y avait dans la parcelle. Et je me disais, maintenant, tous les adultes ont été tués. Quand ça continuait, je me disais, maintenant, c'est le tour des enfants. Et quelque part dans ma tête, je collais à chaque coup de fusil à une personne. Donc, c'était comme si je vivais la scène à quelques mètres de là, mais que je la vivais de l'intérieur.
Et comment ça se fait que tes enfants n'y sont pas passés?
Et mes enfants n'y sont pas passés parce que, je ne sais pas comment ça m'était venu, mais à un certain moment, et je leur avais dit qu'on était en guerre, que donc d'un moment à l'autre, nous pouvions mourir. Alors, on va vous mettre au plafond, même si vous entendez attaquer ici, même si on nous tire dessus, même si vous nous voyez mourir, ne réagissez pas parce que si vous réagissez, vous allez y passer aussi. Quand ils étaient là, ils regardaient à travers les analytes et ils ont vu tuer leur père, leur mère qui étaient là et ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi, ils se sont tenus tranquilles dans le plafond. Et ma petite fille qui avait 7 ans, qui elle n'avait pas pu aller au plafond avec les autres, quand ils ont tiré la jeune fille avec qui elle était et qui l'ont poignardée, elle a glissé sous une natte comme c'était vers 18h30 et que ce n'était plus très éclairé. On ne l'a pas vue. Et le lendemain, elle est partie. Et je croyais qu'elle était morte. Et elle a passé 3 mois à fuir avec les autres autour de Bujumbura. Et après 3 mois, on l'a retrouvée. Et c'est vrai, on a parlé des horreurs de la guerre. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'est la solidarité et c'est la beauté des gestes, mais d'une humanité sublime, qui sont posés pendant la guerre. Les beaux gestes sont toujours très discrets, surtout que pendant la guerre, les personnes qui posent ce genre de gestes sont des personnes qui ont intérêt à ce que leur communauté ne sache pas que ces gestes ont été posés, pour qu'un beau geste qui sauve ne soit pas considéré comme un geste traître par l'autre côté. Souvent, on ne parle pas assez d'eux et je trouve que ce n'est pas justice. Pour moi, un acte juste, c'est un acte d'humanité. Je veux dire, c'est un acte qui prend racine dans notre humain. Parce que, en étant humaine, on est en mesure de comprendre et la souffrance des autres et sa propre souffrance. On est en mesure de comprendre la joie des autres et ses propres joies. On est en mesure de partager. On est en mesure de se remettre en cause aussi, d'avoir cette conscience vigilante, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Et je crois que c'est de tout temps et en tout lieu, c'est cette justice-là qui a sauvé les peuples et qui les a aidés à renaître, donc à ne pas être anéantis, à ne pas disparaître. Et c'est cette justice-là, cette justice qui vient du fin fond de l'humain, qui permet de reconstruire et de garder une mémoire vigilante pour que ça ne se reproduise pas. Et je trouve que c'est beau.
Quand tu te présentes et que tu dois expliquer ton métier, qu'est-ce que tu dis?
Tu sais ce qui est difficile pour moi à expliquer par rapport à mon métier, surtout ici. Là-bas, ça ne me pose pas de problème, parce que là-bas, tous ceux qui font des choses, ils le font comme ça, parce que ça leur est venu comme ça. Mais ici, quand on te demande ton métier, on suppose que tu as étudié ce métier-là. Or, moi, je n'ai pas été formée pour faire ces trucs-là, j'ai été formée pour enseigner. Donc, je fais du théâtre, je fais du conte, je fais de la chanson traditionnelle, je fais de la danse, je fais de la poésie. Maintenant, je m'essaie à écrire un roman, mais de tout ça, je n'ai pas eu de formation par rapport à ça. C'est pour cela qu'il m'est parfois très difficile de me définir, de définir quel genre d'artiste je suis. Je dis je suis artiste et je bricole. Ma véritable vocation, c'est parler. Parler, dire les choses et comme je les sens, avec les mots qui, je l'espère, peuvent être justes, peuvent être vrais, mais sans blesser, sans intention de nuire. Parce que ce qui se dit se vit mieux. Ce qui se dit se vit mieux. Pour moi, la place de l'art est fondamentale. La place de l'art est fondamentale. Je vais revenir à une phrase que j'aime beaucoup, qui a été dite par un grand homme français. Il a dit, le meilleur chemin d'aller de l'homme à l'homme, c'est l'art. Si on fait de l'art vrai, de l'art pour unir les gens, de l'art pour décanter les choses, de l'art pour appeler à la vérité, et de l'art pour rappeler aux gens leur humanité, on peut dire que la place des artistes dans la crise a quand même été très grande. Quand vous avez la parole et que vous avez l'art avec, là franchement, c'est un mariage qui ne peut que réussir.
Marie-Louise travaille sur les thèmes de la corruption, de l'impunité, de la dictature, de la relation entre les gens. Elle rassemble les revendications des citoyens burundais dans son écriture et propose des solutions par le dialogue. Actrice dans la résolution des conflits, elle ouvre des espaces de parole et met en discussion les préjugés.
Quand la guerre a éclaté, on s'est retrouvés coincés parce que dans la troupe, comme on n'entrait pas dans la troupe parce qu'on était Hutu aussi, mais parce qu'on aimait jouer et qu'on était capable de le faire, il y avait des Hutus et des Tutsis dans le groupe. Quelques Rwandais aussi et quelques Congolais. Et donc, on s'est retrouvés coincés parce qu'à Bujumbura, il y avait des quartiers où les Tutsis ne pouvaient pas rentrer, des quartiers où les Hutus ne pouvaient pas entrer. Puis on a fait un débat et on s'est dit, oui, mais c'est quand même à ce moment précis où on a besoin de faire entendre notre voix. Et là, on faisait du théâtre sur vidéo. Parce qu'avant, on faisait théâtre sur scène, mais avec la guerre, là, il n'y avait plus moyen. Les gens, ils avaient peur de rentrer dans des salles fermées. Mais à partir de 1996, on a pu commencer à faire une série radiophonique. Et là, c'était plus facile parce que comme quand même pas mal de Burundais ont la radio, et ceux qui n'ont pas, ils peuvent écouter chez les voisins. Et comme en plus, c'est un pays à tradition orale, où les gens sont habitués à écouter, compter, et un feuilleton, c'est vraiment comme un conte qui n'en finit pas. Le fond du feuilleton est sur ce contexte de guerre. Parce que, par exemple, le feuilleton du Burundi, qu'on a appelé Umuwanyi we Muryango, donc le voisin, c'est d'abord lui, la famille. Même si déjà la famille est quelque chose de fondamental, le voisin est plus important encore. Dans la mesure où, avant que la famille n'intervienne pour te secourir, c'est le voisin d'abord, ou qui aura donné l'alerte, ou qui t'aura secouru en attendant. Parce qu'avec la guerre, on se rendait compte que l'ethnie allait devenir une valeur qui allait remplacer le voisin. Alors que ce n'était pas fondé. Et pourtant, en même temps, avec la manipulation, c'est en train de vouloir remplacer les vraies valeurs qui étaient les valeurs de solidarité, ancrées sur le bon voisinage. Et chez moi, quand tu marches dans la rue et que tu portes une mini-jupe, que les gens estiment que c'est mini-mini, si tu es malmené parce que tu portes une mini-jupe, tu as la possibilité de porter une jupe plus longue. Mais si tu es malmené parce que tu es Hutu aussi, tu n'as pas la possibilité d'être autre chose. Et si on n'y regarde pas de près, les gens, les voisins qui étaient d'abord la famille vont devenir des ennemis à base de manipulations qui n'ont pas de fondement en soi.
Est-ce que dans le cadre de ton travail, tu t'es déjà sentie menacée?
Il y a pas mal de pieds de terre qui ont été censurés. Il y en a qui ont été censurés comme ça, tout simplement. Mais il y a d'autres qui étaient censurés où je sentais quand même que je n'étais pas très, très en sécurité. Donc moi, j'avais dit, mais une pièce qui parle des tueries et qui ne choque la susceptibilité de personne, on l'écrirait pourquoi? Si les gens aiment ce feuilleton, c'est parce qu'il y a dit des vérités qui interpellent les consciences des gens. De toute façon, chez moi, on a l'habitude de dire que c'est-à-dire même sans avoir rien dit, tu peux y passer. Mais y passer pour y passer, autant y passer pour avoir dit quelque chose que d'y passer pour n'avoir rien dit du tout. Ouais. Pendant 4 mois, on est parti faire ce qu'on appelle la caravane pour la paix et la réconciliation. C'était une façon d'offrir un espace de parole à la population. On arrivait, on appelait la population, on projetait un film. Et à partir du film, on débattait. Et c'était une période préélectorale où on savait que les gens avaient beaucoup d'interrogations, les gens avaient beaucoup de peur en eux. On savait que c'était une période aussi où les politiciens, certains politiciens commençaient à réagiter la fibre ethnique en sous-main. Et chaque fois qu'on avait fini la projection, on prévoyait généralement 2 heures de débat. Mais souvent, on se retrouvait encore en train de débattre 4 ou 5 heures après. Parce que les gens, ils étaient avides de ces espaces de parole. Ils voulaient tellement s'exprimer. Et c'est vraiment une des expériences qui m'a fait chaud au cœur. Parce que je me suis rendu compte que quand on donne de l'espace aux gens, surtout aux gens qui n'ont pas souvent l'occasion d'avoir cet espace-là, ils parlent et ils disent vrai. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent vraiment ce qu'ils ont dans les tripes, ce qu'ils ressentent. J'ai vu comment la parole peut être guérisseuse. Et je crois que c'est le meilleur remède que courage toujours l'humanité contre les différents maux. On dit en même temps chez moi que la vérité traverse les flammes et en ressort intacte. Donc la parole vraie n'a pas à craindre d'être dite, parce que quels que soient les obstacles qui seront sur son chemin, ça ne lui empêchera jamais de rester vrai. Que tant qu'il y aura une parole vraie, on pourra construire autour, mais que quand tu construis sur le mensonge, ça finira par s'effriter. Ça ne peut pas tenir. Tout peut partir de l'éducation. Tout peut partir de la communication. Et autant la radio peut être destructrice quand on manipule ce qui se dit dedans, autant elle peut contribuer à la construction de la paix si on s'en sert comme un outil de paix. Mon objectif, c'était amener aussi les gens à réagir, à se dire qu'ils peuvent aussi faire quelque chose, qu'eux aussi, comme certains personnages du feuilleton, peuvent être des acteurs agissants pour pouvoir avoir de l'influence sur leur sort.
Quelle est ta définition d'un individu agissant?
L'individu agissant, c'est la personne qui prend parti pour la bonne cause, qui ose poser des actes. Parce que je me dis, quand on regarde dans un pays, le pourcentage de ceux qui sont dans la nuisance, c'est peut-être 2, 3, 5 %, même 5 %, je ne suis pas sûre que ça va jusque-là. Je pense que si les 95 % autres agissaient, ils auraient le dessus sur les 5 %. Le grand problème, c'est que sur les 95 %, il y a peut-être 80 ou 90 ou qui sont dans le découragement, ou qui sont dans l'indifférence, ou qui sont dans l'impuissance et qui n'osent pas, qui se disent « il n'y a rien à faire, on ne peut que subir ». Et c'est ça, moi, qui me révolte. Je me dis, il y a moyen de ne pas subir. Il y a un temps pour être assommé, il y a un temps pour se relever. On ne peut pas se dire, j'ai été assommé, donc je vais rester par terre. Et puis, bon, on verra venir les solutions. Les solutions ne viennent jamais toutes seules. Chacun amène sa petite goutte. Si on se dit, moi, ce que je n'aime pas, c'est de me dire, les autres, ils vont faire. Les autres, ils vont faire, oui, mais pourquoi les autres feront ça à moi? Je dirais que l'état de l'humanité dans notre monde actuel aurait besoin de pas mal de médecins à son chevet. Ça a vraiment besoin d'une assistance. Et je ne sais pas si on ferait recours à des chirurgiens ou Oui, pas même peut-être des chirurgiens, parce que je me dis, il y a peut-être des parties tellement gangrénées dans ce qui devrait être notre humanité que ça ne ferait pas de mal que ça puisse être amputé. Parce que franchement, il y a... Là, je parle de mon pays, mais quand on regarde partout, partout dans le monde, les actes qui s'opposent, les tueries qu'il y a à gauche, à droite, les attentats, c'est quand même inimaginable. Des crises meurtrières. C'est des moments vraiment où certaines personnes perdent complètement leur humanité. Je ne vais pas dire qu'ils deviennent des animaux, parce que de mon point de vue, ce serait quand même un peu injuste par rapport aux animaux. À un certain moment, on se demande, mais l'humain, c'est quoi? L'être humain, c'est quoi? Quand on voit tout ce que nous faisons, et pas que des actes de barbarie seulement, mais même au niveau de notre humanité au quotidien, du partage. L'humain, c'est quand même quelqu'un qui partage aussi avec les autres. C'est quelqu'un qui est attentif à la personne qui est à côté. Mais on peut voir qu'il y a de plus en plus des gens qui se foutent pas mal de ce qui se passe à côté. C'est pas mes oignons, moi je suis pressée, j'ai mon boulot, ou alors je vais pas m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Mais si le sort des humains que nous sommes ne nous regarde pas les uns les autres, on est humain pourquoi? Je pense que la guerre a fort réveillé ma conscience à la valeur de la paix. On ne survit pas pour rien. S'il y a des gens qui sont morts, nous avons une dette de mémoire par rapport à eux. Une dette de mémoire et une dette de vie. C'est-à-dire que si vraiment on se laisse aller, qu'on ne vit pas pleinement sa vie, quelque part je considère que c'est un peu trahir ceux qui sont morts et qui auraient aimé vivre. Si on est encore en vie, c'est pour porter des messages, c'est pour faire des choses. Et c'est comme ça que je me suis fait le serment que ce que je serai capable de faire, je le ferai.
Si tu devais t'adresser aux gens, qu'est-ce que tu leur dirais?
Il y a quelque chose que j'aimerais leur dire, une demande que j'aimerais leur faire, c'est de ne pas être spectateur de la vie. C'est d'en être acteur. C'est d'en être acteur parce que si hier on s'est tu, ne sachant à qui parler, aujourd'hui et demain le silence est complice.
C'était Marie-Louise Sibassouri. Vivre, c'est compter. Si c'est là, c'est ici. Une série d'émissions proposées et produites par RCN Justice et Démocratie. Réalisée par Pascaline Adamantidis. Avec des prises de son de Philippe Osé, mixé par Patrice Hardy, sur une musique de Daniel Stockard, mixé par Olivier Rutten. Cette émission a été réalisée avec le soutien du service public fédéral du ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement en Belgique.